Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant Festival International du Film Insolite à Rennes-le-Château avec Raphaël Thierry. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
On revient au Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château. Qu'est-ce que j'ai passé un excellent moment pendant ces 5 jours avec des gens incroyables dans le jury court-métrage. Eh bien oui, j'en faisais partie. Et un acteur aussi d'une grande sensibilité, d'une tendresse, c'est Raphaël Thierry. Et oui, il était présent, il faisait partie du jury court-métrage et il accompagnait un film magnifique, L'Homme d'Argile, qui était présenté en ouverture du festival. Vous savez, c'est un festival où sont en compétition des courts-métrages et on a la chance de découvrir des films hors compétition. Et c'était le cas pour L'Homme d'Argile. Alors, c'est vrai que pour nous, oui, c'est jury court-métrage, jury documentaire et jury musique de film. Mais c'est vrai que Smaïn, qui était le président du jury musique de film, eh bien, a choisi d'honorer le film L'Homme d'Argile, notamment cette musique magnifique. Et on a cette chance aussi que Raphaël Thierry nous émerveille avec sa cornemuse dans ce film parce qu'il lie ses deux passions, la musique et le cinéma. Et ça, c'est totalement envoûtant. On est pris par les vertiges, cette douceur, cet homme brisé aussi qu'on ressent à travers ces notes qui s'échappent de cette cornemuse. Et je peux vous dire que, eh bien, au Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château, on a eu cette chance de pouvoir l'écouter, puisque pour la clôture du festival, il nous a offert un morceau à la cornemuse. Et ça, c'est que du bonheur. Et en ouverture, on avait eu aussi un préambule, vu que le film L'Homme d'Argile était avec ce personnage qui en jouait. Et du coup, quand le film s'est fini, sous les applaudissements, il a rejoint la scène avec cette cornemuse et est monté pour faire un préambule au débat qui avait lieu, ce débat nourri avec le public qui a eu lieu après. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est quand vous le voyez, c'est impressionnant. Oui, son ancien métier fait toute relation puisque il a été bûcheron et quand vous le voyez avec ce charisme, ses épaules, c'est un ours. c'est tellement avec affection, je le dis vraiment, vraiment. J'aime beaucoup cet homme et c'était une rencontre fabuleuse pour moi. Un nounours à la guimauve parce qu'il est d'une telle sensibilité qui vous fait craquer, qui vous met les larmes aux yeux sur sa façon de parler d'un film ou de quelque chose qui l'a bouleversé. Et 5 jours avec lui, ça ne s'oublie pas et j'ai hâte de le voir dans tout ce qui va arriver parce que je sais qu'il mettra beaucoup, beaucoup de sensibilité et notamment, on l'a vu dans un petit caméo, dans un film qui vient de sortir, qui s'appelle La Bonne Étoile de Pascal Elbé, où il est dans un camp et vous le verrez interagir avec le personnage notamment de Benoît Poulvorde et de Pascal Elbé. Ça dure pas longtemps, mais je peux vous dire que moi je l'ai reconnu tout de suite et j'ai eu cette tendresse de me dire « Ah, il est là !» Et il est aussi là, à mon micro, parce que j'ai cette chance, notamment de tous ces liens qui sont nés avec ce jury court-métrage, mais d'avoir pu avoir ce grand homme à mon micro. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
On est au Festival international du film insolite. Et hier soir, était projeté L'Homme d'argile en ouverture. Comment tu as vécu cette projection à la Belle Étoile ?
Ah, le cadre déjà aide beaucoup à être bien quand on arrive. Ça, c'est sûr, les lieux sont incroyables. Et d'autre part, la thématique sur le minéral, je crois que le film était en résonance avec le sujet, notamment aussi le court-métrage d'avant de Claire. Je crois que la programmation était idéalement faite pour une première soirée. Et revoir le film, enfin le redonner au public comme ça au bout d'un an et demi, ça fait toujours plaisir, ça veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait oublié.
Non, il n'est pas tout à fait oublié, on l'a encore en mémoire parce qu'il est d'une telle poésie et on sent une telle fragilité dans ton personnage qui nous touche au plus profond.
C'est un peu à l'image de l'argile, c'est fragile.
C'est
hein.
Ça, ouais.
C'est beau et on croit que c'est imputrescible, mais parfois ça se craquelle. Et je crois que c'est un petit peu le thème du film, l'homme, même s'il paraît costaud, il a ses faiblesses, il a ses failles, et puis il a ses besoins, ses envies. Je crois que tout est raconté dans ce personnage, enfermé dans sa solitude, et qui un jour, par une rencontre complètement inattendue, va découvrir un monde qui n'est pas le sien et va oser s'émanciper. Si cette femme-là n'était jamais passée, c'est un moment de sa vie qu'il n'aurait certainement jamais connu.
Et puis dedans, eh bien, tu nous fais l'honneur de jouer de la cornemuse. Et ce n'était pas prévu à la base, hein, quand le premier scénario, le premier jet a été fait. Anaïs n'avait pas mis en avant ce musicien.
Ce qui s'est passé, c'est que Anaïs, on se connaît depuis 7 ans, puisqu'on a fait auparavant 3 courts-métrages. J'ai joué dans 3 courts-métrages c'est qu'elle ça. A réalisés. Et Anaïs est venue souvent à la maison, dans le Morvan. Et elle a découvert aussi cet univers des musiques traditionnelles, ces pratiques collectives ouvertes. Elle a découvert des instruments qu'elle ne connaissait pas, comme beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ces musiques-là, passent souvent à côté. Et au départ, il n'était pas du tout question de cornemuse. Et au fil des versions, des différentes versions d'écriture, un jour, elle me dit « Bon, Raph, voilà, le personnage principal jouera de la cornemuse ». Et non pas que j'attendais ça, mais je trouvais que c'était très logique pour la dramaturgie, pour le film. Cet homme qui a sa pratique artistique allait la confronter aussi avec celle de cette femme qui est très connue dans le monde de l'art, mais lui a quelque chose à lui rendre en échange. Et comme deux personnes qui pratiquent des activités artistiques, se rencontre, il y a déjà quelque chose qui facilite la rencontre, je crois.
Oui, c'est vrai, en plus on sent une symbiose, parce qu'elle est touchée par cet homme, et par sa musique, et par ce qu'il dégage, et c'est pour ça qu'elle va vouloir en faire une sculpture.
Alors, elle est touchée par qui ? Par l'homme ou par le modèle ?
Par les deux.
C'est la question du film. Après, je crois que chacun le regarde, le reçoit à sa façon. Bien évidemment, lui, il est persuadé de toute façon qu'elle a un regard appuyé sur lui qui correspond à quelque chose. Lui ne s'est jamais senti regardé de cette façon-là. Elle a toujours regardé de par son physique, mais pas du tout pour la même raison qu'elle le regarde. Donc lui est dans cette histoire... qu'il envisage d'une histoire peut-être amoureuse. Et elle le voit, mais elle voit aussi ce qu'elle peut en faire.
C'est un homme avec qui on joue aussi sur le fait de l'amour. On voit avec la postière, qui est quand même centrale et qui se joue un peu et qui se rend compte petit à petit que, eh bien, elle risque de le perdre. Et au fait, ce qu'elle pensait être un jeu est beaucoup plus pour elle.
Oui, parce que cet homme est pris entre ces trois feux, donc avec Garance, l'artiste, la postière qui est sa copine avec qui il a des...
Des jeux de rôle.
Oui, voilà, des escapades un peu particulières. Et surtout sa mère, parce qu'il faut remettre ça aussi dans le contexte familial. La mère qui, elle, a qu'une peur. c'est que l'histoire avec Garance
l'éloigne
complètement d'elle, alors que la postière qui vient tous les jours, puisque elle est la postière qui vient même dire qu'elle n'a pas de courrier, mais elle est pour le rapprochement de ces deux personnes, et comme ça, elle aura toujours son fils sous la main.
Tout à fait, oui.
Et lui, il est tiraillé entre ces trois histoires, sans y jeter un sort non plus, mais l'arrivée de cette femme va bouleverser ce quotidien.
On peut parler de cette actrice...
Ça ne sera jamais servi avant 24h.
On peut parler de cette actrice qui joue quand même ta maman dans le film, qui est incroyable.
Mireille Pitot, incroyable.
Mireille Pitot, son premier rôle.
Oui. Anaïs ne voulait pas confier ce rôle à une actrice professionnelle. On avait cette envie commune de trouver quelqu'un du territoire, de notre territoire, parce qu'on était sûr que ça allait tourner dans le Morvan. Quelqu'un qui a... Les gens ont un phrasé spécial chez nous. Quelqu'un aussi qui n'avait jamais eu la pratique du cinéma et qui allait nous rendre quelque chose de très réaliste, en fait. Hein. On voit que le début du film, on est presque un peu dans une séquence de striptease. Hein.
Oui.
On se demande un petit peu ce qui se passe. On est toujours à la lisière de ce que j'aime beaucoup, moi, dans le cinéma, la lisière entre le documentaire et puis la fiction. Et cette dame, donc, était ouvrière d'usine toute sa vie, qui habite à Dijon, et qui... Je veux pas dire que c'était sa première expérience, parce que Mireille, son fils, à ses heures perdues, joue de la batterie dans un groupe.
Oui.
Et puis un jour, un des copains de son fils, de Christian, dit, tiens, il faisait de la musique reggae, et il dit, je suis en train de chercher un clip, je suis en train de réaliser un clip, et je cherche une petite mamie dont j'ai vraiment besoin pour mon film, pour mon clip. Quoi. Et il a proposé sa mère, et elle a tout de suite dit oui. C'était sa première expérience, en fait. Et quand on lui a proposé ce film, elle a tout de suite dit oui, sans même réfléchir, sans même réaliser à quoi allait correspondre un tournage, parce que c'est quand même assez usant, fatigant. Mais elle a été omniprésente, et puis c'était assez dialogué, les parties de Mireille. Et Anaïs assistait un petit peu sur ce qu'elle a écrit, elle voulait que ce soit rendu à l'écran, et au bout d'un moment, on s'est dit, maintenant, on va laisser Mireille parler comme elle le souhaite, elle sait ce qu'elle doit nous raconter, et on fera beaucoup plus de prises, et dedans, on aura les prises qu'il nous faut. Mais on va la laisser jouer naturellement, qu'elle ne soit pas encombrée par la peur d'oublier un bout de réplique, ou un mot, voilà. Et après, à partir de là, ça a dégoupillé l'histoire, quoi. Elle s'est sentie chez elle. Et ce qui était vachement chouette dans ce film, c'est que, lorsque je suis arrivé sur les décors, le premier jour, donc on a tourné les scènes avec Mireille, et la déco avait presque refait, je ne veux pas dire à l'identique, mais l'appartement dans lequel habite Mireille. C'est-à-dire, il y avait la table et puis surtout le meuble derrière avec tous les bibelots. Là, on était chez Mireille, quoi. Et je crois qu'elle s'est sentie, même si ça, si ça tournoyait autour d'elle, elle était chez elle.
Elle était à fond, quoi.
Ouais, puis elle était d'une patience. Et puis surtout, elle nous a sorti des tirades. Il y avait de quoi faire.
Hein. Magistrale.
Ah, puis elle nous a sorti des trucs en plus, hein, qui sont pas dans le film, mais magnifiques. Qui devenaient les références de tout le monde.
Waouh.
Et puis... Et puis extrêmement drôle, et puis présente, et puis heureuse d'être là, quoi. Ouais.
Ça se sent, en tout cas.
Ouais, ouais.
Ça sent, et puis on sent la complicité avec toi, avec tous ceux avec qui elle interagit.
Mais c'est pour ça que ça a marché, parce que, en plus, moi, comme je suis du coin, on avait des choses en commun, quoi, en fait. Moi, ma mère avait vécu à peu près la même chose, sauf qu'elle était paysanne. On avait des endroits qu'on connaissait en commun, des gens en commun, donc ça c'est quelque chose aussi qui rassure, qu'on sait à peu près où est-ce qu'on est. Et puis son fils Christian qui était là aussi, qui faisait vraiment le tampon entre Mireille et puis le plateau et Anaïs et moi, donc c'était très familial, en fait.
J'imagine.
Ouais.
C'est un film aussi où il y a des petites scènes d'humour, il y a des pastilles d'humour avec cet homme qui chasse ses taupes.
Oui.
Qui fait des trous, qui chasse ses taupes, et même on voit que la terre est rouge.
Ouais.
Tellement, on a l'impression en fait que c'est un symbole de ce qu'il ressent à l'intérieur, de sa souffrance à chasser ses taupes.
Ça, je ne sais pas si c'était voulu, parce qu'ils ont essayé une nouvelle façon de tourner en rajoutant un objectif sur la caméra pour se rapprocher un petit peu de la pellicule. Mais l'histoire des taupes, elle ne vient pas de nulle part non plus. Chez nous, moi, mes voisins, mon vieux voisin Dédé, qui est décédé maintenant, les taupes, c'était son activité de l'après-midi, c'est-à-dire dès qu'il y avait une taupe qui poussait... chasser les taupes. On ne voulait pas, on veut pas de taupes dans les pelouses, hein, ça va pas du tout.
Ça fait des trous partout.
Et puis, lui, alors que personne ne vient au château, mais sa hantise aurait été que les propriétaires arrivent un jour et puis que le parc du château soit envahi de taupinières, quoi. C'était aussi sa hantise, hein. Alors qu'il n'avait jamais vu les propriétaires venir. Hein.
Ben oui, bien sûr.
La première rencontre, c'est avec Garance qui déboule une nuit. On ne sait pas d'où elle sort, d'ailleurs, ce qui est bien rendu par Mireille qui joue ma mère, qui dit ouais, c'est peut-être évadé d'un centre spécifique
ou autre. J'ai adoré ça quand elle dit ça, qu'elle s'est complètement évadée et tout, et que attention, il faut faire attention.
Elle est à moitié
dingue. Pour elle, il y a ce danger.
Oui. Ah ben tout de suite, elle calcule très mal, hein, ça c'est sûr. Hein.
Mais... Et puis, c'est vrai qu'on sent cette fragilité, cette beauté, et aussi ce besoin de liberté de ton personnage.
Oui. Je crois qu'il s'autorise en plus, parce que ça va quand même assez loin quand elle dit, quand elle parle de son visage.
Excusez-nous, on est en interview.
Je...
Pas grave, vas-y.
Je me promènerai sur votre visage. Votre visage est comme un paysage. Et la scène suivante, on le voit en train de se regarder dans le miroir, c'est peut-être la première fois qu'il se regardait réellement.
Ouais.
Je crois, il dit, ah bon,
il s'aperçoit.
Voilà, ouais. Il se dit, ah bon, oui, c'est ça, elle a peut-être raison. Il ose se regarder. Avant, le seul regard qu'il avait de lui, c'est le regard qu'on lui
des
donnait.
Autres, ouais. Voilà. Et là, il s'autorise, en fait. Et on voit cette scène aussi où il est dans les catacombes du château, qui est vraiment aussi très forte, je trouve. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette scène.
Oui. Ben, ça parle aussi de l'artiste qui s'enferme, qui veut cacher son boulot. Et lui, aiguisé par cette curiosité. Donc, c'est une sacrée quête, une sacrée recherche, hein, de partir, d'aller dans les méandres du château pour essayer d'accéder enfin à qu'est-ce qu'elle fabrique. Il doit s'enfermer avec de la musique à fond. Et là, on sent dans la respiration, à chaque fois qu'il découvre un dessin ou un début de sculpture ou autre, on sent qu'il est en apnée complètement. Oui. Quoi, mm-hmm. Parce qu'il ne peut pas penser une seconde que ça pouvait aller jusque-là. Quoi.
C'est ça.
Et le pire, c'est quand il découvre la sculpture, là, il se dit, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'était...
Ça t'a touché, ce film.
Ouais.
Ce tournage, on le sent, hein. Quand tu en parles, il t'a vraiment pris aux tripes. Tu ressentais ça quand tu étais sur le tournage ou
moi j'ai eu des scènes terribles à tourner. Ouais. Terribles.
Ouais. Quelle a été la plus...
Celle où Garance vient me retirer mon cache-œil.
Ah, ouais. Ça, c'était vraiment symbole.
Ouais, ouais. Puis elle était simple, cette séquence. Et je sais pas, il s'est passé un truc. Et puis là, j'ai pas pu me retenir, quoi.
Ouais t'as... Mais c'est beau?
C'est beau, mais c'est... Normalement, j'aurais pas dû me laisser submerger comme ça. Et parce que c'est mon histoire.
Oui, mais je sais.
Donc voilà, c'est ça remue, quoi. Tu te dis pourtant, je m'étais préparé, j'ai dit ça va, et puis non. Et puis la façon dont elle arrive vers moi, putain, ce regard, c'était magnifique, c'était waouh.
C'est vrai qu'elle est vraiment habitée. On sent vraiment ce côté où elle veut te donner cette importance et se dire voilà, tu es toi, accepte-le.
Ben oui, c'est ça, c'est ce qu'on a voulu raconter, hein. C'est depuis le début en plus, hein, la première mouture, ce que j'avais évoqué à Anaïs, c'était de rester dans cette histoire-là, quoi, qu'un regard peut tout changer, quoi. Et aussi le fait de la rencontre de deux milieux sociaux complètement différents. Parce qu'ils sont quand même, c'est grand écart. Hein.
C'est opposé, hein, voilà. Complètement.
Et ça aurait pu, si ça s'était fait avec une femme du village, la portée n'aurait pas été aussi profonde, aussi aussi belle, je crois. Hein.
Il y a cette scène avec l'argile où tu es totalement recouvert. Ouais. Cette scène aussi, elle est beaucoup. Enfin, il y a un très beau symbole. C'est le fait de se dire n'emmène pas la statue, emmène moi.
Ouais.
Moi.
Ouais.
C'est moi que tu dois emmener.
Ah oui, c'est ça. Ben, parce qu'il a compris. Il a compris à la fin que. Quand elle est avec son agent, avec les photographes, elle a bien compris. Quand on dit « Ah, c'est vous la muse ?» Elle dit « Oui, d'accord, donc c'est pas moi qu'on vient voir, quoi. »
Non.
Ouais.
C'est la statue.
Ouais. Et la seule façon de l'approcher de plus près, c'était de jouer la statue, la sculpture, quoi. C'était la seule façon. Elle est amoureuse de son œuvre,
oui,
pas de lui.
Oui, c'est ça. Donc du coup, le personnage veut qu'elle se rende compte que c'est lui et pas son œuvre qui est importante. Et c'est souvent le malaise, la maladie d'un artiste, c'est qu'il est plus amoureux de son œuvre que du modèle qui peut lui donner autant d'amour que possible. Mmh. Et la personne va plus apprécier ce qu'elle a créé que la personne qui est devant un tel.
C'est pour ça le sujet de départ aussi, Anaïs, elle a voulu déplacer le focus de pas sur l'artiste, mais sur la muse, sur la personne qui a inspiré. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, quand on va voir un musée ou une expo ou autre de sculpture, on voit l'œuvre et puis c'est pas systématique de se poser la question, mais qui a prêté son corps à l'artiste,
tu vois. Qui est la personne qui a aidé pour faire ça.
C'est vrai que maintenant, je crois que je regarde des choses différemment, quoi. Comme à chaque fois, les films, c'est un apprentissage au quotidien, ça, ça change le regard sur la vie, c'est ce qui est très important. Hein. Après, il faut être curieux de tout. C'est ce qui a toujours animé ma vie, je crois, la curiosité.
Il y a plein de projets, là, qui se dessinent.
Oui, il y a des choses, bien sûr, il y a des choses. Je vais tourner un court-métrage, là, une comédie. Je serais content parce que je n'ai jamais tourné
vraiment une
comédie. Ouais. Bon, sur un court. Et puis après, un long métrage magnifique que j'ai vraiment hâte de tourner, vraiment. Et peut-être qu'il plaira l'organisation, qui sera là ici l'année prochaine.
Peut-être
je ne sais pas quelle sera la thématique.
Je ne sais pas quelle sera la thématique, mais si ça colle dans la thématique, peut-être qu'il sera présenté ici l'année prochaine.
Ouais, surtout dans ces lieux incroyables, quoi.
C'est vrai que c'est beau. Hein.
Ah ouais.
On est vraiment.
Hier soir, j'ai trouvé que c'était. On avait l'impression d'être dans une boîte aussi, hein, même bien qu'on était en plein air, hein, mais. Un cocon, un truc.
C'est ça.
C'était vachement, impressionnant.
Donc toi qui as fait pas mal de courts-métrages, comment tu vois, quand on t'a proposé d'être jury court-métrage, quelle a été ta réaction?
C'est toujours un grand plaisir quand on a le temps d'y participer. C'est plaisant, intéressant pour plusieurs choses. Déjà, la constitution du jury, nous sommes des gens des métiers du cinéma ou du journalisme ou autre. Déjà, des gens qui portent des regards différents sur les films, donc c'est très intéressant. Et puis aussi, tous ces courts-métrages, tous ces films qui sont proposés, qui sont souvent des premiers, deuxièmes, troisièmes films, qui sont des marchepieds vers la réalisation d'un long-métrage. Et pour moi, le court-métrage, pour en avoir tourné beaucoup, c'est un peu du domaine de la performance artistique. Pouvoir raconter une histoire qui se tient en 15 minutes, je trouve ça vraiment à chaque fois assez admirable. Et encore, ces jeunes réalisateurs ou réalisatrices ont encore la possibilité d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Ils sont encore pas trop engoncés dans les desiderata des productions qui veulent
leur dire maintenant.
Voilà, c'est très ouvert. Et puis presque tout est permis. Et ça, je trouve ça magnifique que ça puisse se faire. Et je prends aussi un grand plaisir à tourner des courts-métrages. Et à chaque fois, c'est des rencontres avec le jury aussi qui sont très intéressantes, où on n'est pas forcément d'accord, parce que je crois qu'on a chacun notre façon de regarder des films. Donc c'est ça qui est très riche. C'est les discussions qui s'en dégagent. Moi, j'ai plutôt tendance à fonctionner au coup de cœur qu'au travail très réalisé. Le voisin aura peut-être un autre regard, et c'est ça qui est intéressant aussi. Après, c'est de conjuguer tout ça. Et puis, après, c'est une compétition. Bon, il n'y a rien de. Voilà. Je crois que le premier prix dans un festival, c'est quand le film est retenu et en compétition. C'est le plus joli des prix.
Oui, c'est la sélection de la compétition officielle.
C'est-à-dire que le film a déjà été remarqué, et ça, c'est, C'est le plus important.
En tout cas, moi, je suis enchantée de faire partie du jury court-métrage avec toi.
On va être ensemble, en plus.
Mais oui,
ça va être
on
bien.
Va pouvoir débattre
et tout. Oui, oui. Et pas se battre, pas trop.
Non. Bien parler des films et tout.
C'est toujours un grand plaisir.
Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Raphaël ?
Bon appétit.
Bon appétit.
Non, ben c'est ce que je dis toujours, c'est moi cette passion, continuer le plus longtemps possible, tant que je peux, tant que j'ai la forme, la santé, et puis toujours, tant que j'ai toujours l'envie et le goût de tourner. Le jour où ça deviendra, j'y rentrerai dans les pieds, il sera temps d'arrêter. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et puis il y a bien sûr le cinéma, mais il y a peut-être des choses qui m'attendent. Voilà, il y a la musique qui m'attend un petit peu, parce qu'on m'a demandé, plusieurs fois.
Tu vas nous faire un concert, tu vas nous faire quelque chose. Non, mais parce que quand même hier soir, tu es arrivé avec la cornemuse et tu as habité le générique de fin.
Oui, carrément. Mais ça, c'est ça fait partie des choses que j'ai un petit peu en jachère. J'ai des mélodies qui traînent dans tous les tiroirs, et puis les potes à chaque fois me disent, bon, allez Raph, on y va, on fait un petit tour de scène. J'ai dit, oui, d'accord. Chaque année, je leur dis oui. Pour l'instant, je ne suis pas là.
T'en es pas là.
Non, puis il y a l'écriture. J'ai écrit un court-métrage que je vais essayer de réaliser l'année prochaine. Et puis, un long-métrage que j'ai écrit, qui ne trouve pas de producteur, parce que c'est très compliqué, hein. Et j'ai l'idée d'un deuxième long que je vais en profiter pour l'écrire, puis après je le donnerai à des scénaristes qui ont envie de retravailler dessus ou autre, si ça les intéresse. Besoin de coucher des idées sur un papier, raconter une histoire cette fois-ci.
Ouais, toujours.
Pas uniquement l'interpréter, mais l'écrire aussi.
D'écrire.
Être là dès le début, quoi. J'ai deux, trois idées qui traînent. Donc voilà, il y a encore de l'ouvrage sur l'établi, tant mieux.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous, merci à toi.
Merci pour ce moment.
Bah oui, je vous le disais, c'est une telle sensibilité, d'une telle gentillesse, d'une telle générosité. Il le porte dans son regard, dans sa façon de s'exprimer. Et j'attends avec impatience tous ces projets. Moi, j'en sais un peu plus de ces projets. C'est la chance d'avoir passé, je vous le dis, 5 jours avec cet homme formidable, avec tous les membres du jury, d'avoir pu échanger. Et je sais que ce qui va arriver, le film qui va arriver d'époque, va être assez impressionnant, tourné un peu à droite, à gauche. Et quand il en parle, waouh! T'as des étoiles dans les yeux et tu te dis mou, j'ai très envie d'aller sur le tournage, j'ai très envie de le voir jouer devant la caméra et après de voir le résultat. Et je sais qu'il tourne actuellement et je lui envoie toutes mes ondes positives parce que je le remercie de tout cœur. Et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur d'avoir cet homme-là. Et si vous pouvez voir L'Homme d'Argile, vous comprendrez toute l'importance, tout ce qu'il a transmis dans ce film aux côtés d'Emmanuel De Vos.
Raphaël ?
Oui ?
Garance Cheptel, vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît ?
Pour qu'elle se prend celle-là. C'est les patrons, Je demande la main au début, puis tout le branqué passe.
Elle était comment quand elle était petite ?
Oh, elle était un peu spéciale,
Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre.
Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992.
Ça tient une famille,
C'est pas vous, vraiment, C'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage. J'aurais passé des jours à vous parcourir.
C'est pas à 58 ans qu'on fait une crise d'adolescence. Si tu veux jouer les playboys libres à toi, mais tu auras toujours la même tête.
Un paysage.
C'était Chaud Devant, Festival International du film insolite de Rennes-le-Château avec Raphaël Thierry. Merci beaucoup Raphaël pour cette interview. Merci pour tous ces moments qu'on a partagés au festival. Et à très très bientôt sur le cinéma, la télévision. Je sais que on va bientôt se revoir. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.